Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de passer un moment avec Vince de Creacity pour découvrir un petit peu son parcours, sa vision du no-code, sa vision d'outils comme Notion ou Make, auxquels il forme également. Voilà, une belle discussion avec un membre éminent de la communauté no-code. Je vous laisse tout de suite avec cet échange. Salut Vince, bienvenue sur le podcast de Contournement. Tu es le créateur de la chaîne YouTube Creacity qui parle de no-code. Tu proposes également des formations sur des outils comme Make, Power Apps ou Notion. Notion dont tu es un expert certifié d'ailleurs et un membre très actif de la communauté Notion en français ainsi que la communauté no-code France évidemment. Bref, évidemment, on a plein de sujets à aborder ensemble. Je pense qu'on aura une bonne discussion, donc je ne vais pas faire plus long pour cette intro et je te propose pour bien commencer de te présenter.
Bah bonjour, avant de me présenter, avant de commencer, je voudrais d'abord te dire merci pour l'invitation. Je suis honoré que tu m'aies proposé qu'on fasse un épisode ensemble. J'en ai même parlé à ma maman, c'est dire comment je suis fier. Donc je m'appelle Vince, côté pro, je suis encore et toujours instit primaire ou professeur des écoles, parce que c'est pas le même nom en France et en Belgique. Même si je suis plus tout à fait à temps plein dans l'enseignement, je suis effectivement le créateur de contenu pour Creacity, une chaîne YouTube qui a dépassé 7000 abonnés, et puis je propose des formations, de l'accompagnement, etc. Au niveau personnel, j'ai une compagne, Nathalie, et deux enfants, Arthur et Alex. Hein, je sais que ça t'avait fait bien rire la première fois, tu croyais, enfin, c'était spécial.
Ouais, ça m'a fait bugger.
Ouais, Arthur a 12 ans et Alex 9. Je me sers d'ailleurs toujours de leurs deux prénoms pour les codes promo sur Creacity. Ça leur fait plaisir quand je leur dis que j'ai vendu grâce à eux. Et puis, comme à l'école des fans, j'ai aussi envie de dire un petit coucou à mon papa et à ma maman qui sont dans le public et qui sont très contents que je sois là.
Voilà. Cool. Eh ben, écoute, j'espère qu'ils apprécieront cet épisode. En plus, c'est bien parce que du coup, tu vois, ça va. Alors, j'allais dire, ça va te forcer à faire preuve de pédagogie, mais bon, il se trouve que de toute façon, tu as l'habitude de ça, non seulement par ton métier et puis par ton activité dans le no-code. Mais j'aimerais que tu nous en dises plus, un peu plus sur ton parcours, justement, parce que je trouve ça assez intéressant. T'as toujours été prof et t'as toujours eu aussi une activité. Prof. Et t'as toujours eu une activité aussi autour du web, etc., si je dis pas de bêtises.
Ouais. Alors, donc j'ai 43 ans. C'est vrai que je l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est ça peut être important dans le truc. J'ai 43 ans et donc je suis prof depuis 20 ans. Et en fait, depuis 18 ans, j'ai aussi sur le côté une société. Enfin, j'ai été indépendant puis je me suis mis en société. Ça a pas beaucoup d'importance pour des services informatiques parce que on me demandait de faire un site ici, de faire un web, une plateforme d'e-commerce là, etc. Donc voilà, ça m'aidait à j'essayais d'aider les gens en leur donnant des outils et puis je facturais beaucoup moins que les autres parce que j'avais pas toute une grosse structure autour puis j'avais pas toujours vraiment les notions de combien ça peut coûter de faire ça. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 15, 16 ans, j'ai créé des applications assez sympas, des trucs qui étaient pas mal, surtout pour des intranets, donc vraiment pour régler des problèmes dans des sociétés. On avait un problème sur de l'encodage de prestations, et ben je créais une application qui permettait de faire ça facilement. Voilà, c'est une époque où le no-code n'existait pas, et donc j'ai fait du Joomla, du PHP, du MySQL, j'ai fait des trucs, voilà. Je me suis souvent amusé à essayer de faire du Ruby et des trucs un peu tordus. J'ai jamais réussi à me mettre au Python, mais il paraît que c'est pas mal, surtout avec des histoires d'expression régulières. On m'a parlé de quelqu'un qui faisait des trucs là-dessus. Et donc, j'ai eu cette double casquette de prof et de développeur, entre guillemets, pendant tout un temps. Et il y a déjà un moment, je voulais créer une chaîne YouTube, mais je ne voulais pas faire le prof. Donc, je ne voulais pas expliquer des choses aux gens. Et donc, la toute première chaîne YouTube que j'ai créée, c'est Woodworking Land. C'était pour des histoires de bois, parce qu'en fait, je crée les meubles à la maison. Je fais moi-même les meubles à la maison. Et donc, je faisais des vidéos où je montrais ce que je faisais en bois, enfin, en meubles, quoi. D'ailleurs, je crois que la chaîne est toujours quelque part sur Internet, sur YouTube. Et puis, j'ai lancé Creacity, qui au départ s'appelait en fait iFilm Live. iFilm Live, au départ, c'était parce que je voulais faire une chaîne plus travel, plus les vidéos de vacances, plus des trucs de ce genre-là.
Ah, OK.
Puis, ouais. Et puis, iFilm Live est devenu Creacity. Et j'ai gardé le logo et j'ai gardé le truc que j'avais fait pour iFilm Live. Et d'ailleurs, quand je discutais du logo avec les gens ils me disaient « Mais à quoi ça sert ?» Parce qu'on est en train de refaire le logo, on est en train de refaire l'identité. Et les gens me disaient « Mais le logo de Creacity, je vois pas ce que ça vient foutre dans l'histoire. » Et en fait, si tu te mets dans l'idée que c'était au départ vidéo de travel, vidéo plus sur le fait de filmer, le fait de, voilà, eh ben, ouais, ça fait sens parce qu'il y a la lentille au milieu, parce qu'il y a les couleurs autour qui étaient les différents types de contenus que je voulais créer, etc. Donc voilà. Et puis, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, j'ai lu un livre qui a vraiment littéralement changé le truc. C'est le livre de Michael E. Gerber, The Myth Revisited, le mythe de l'entrepreneur revisité, je crois que c'est ça en français. Je lis tout en anglais, donc voilà. Et ce livre-là, littéralement, a changé ma vision du truc, avec deux, trois vidéos aussi à côté qui disaient « il faut faire ce dans quoi on est bon ». Et dans quoi est-ce que je suis bon ? Bah, je suis un formateur, je suis un prof. Donc je dois faire quoi ? Je dois aider les gens à utiliser les outils, à se débrouiller par eux-mêmes, à voler de leurs propres ailes. Et à ce moment-là, bah, j'ai switché Creacity sur le mode no-code parce que bah, j'ai découvert Notion aussi à ce moment-là. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se sont mises en même temps. Et le fait que ce soit confinement et qu'on était quand même à la maison, bah, on a fait beaucoup de choses avec les enfants, on a fait beaucoup de choses dans la maison, mais d'un point de vue professionnel, littéralement, pour moi, je peux dire que ça a tout changé. Et je peux comprendre que le confinement et tout ce qui s'est passé à ces moments-là, ça a pu être douloureux pour beaucoup de personnes. Mais moi, littéralement, ça a changé ma vie, mais dans le bon sens, sans doute. Et donc, oui, je suis parti dans les tutos, je suis parti dans les explications, je suis parti dans les trucs comme ça. Et donc, les premières vidéos, la première vidéo que j'ai faite sur Notion est encore une des vidéos qui, chaque mois, est la plus vue, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc, vraiment, la vidéo 0, la vidéo 1 plutôt, du tuto débutant sur les bases de données, c'est vraiment une vidéo encore regardée maintenant. Et puis, bon, voilà, de fil en aiguille, ça s'est développé. Et puis, par exemple, l'histoire du livre sur Notion que j'ai écrit, pour dire un petit peu comment, quand on laisse le fil de sa pensée évoluer, ce que ça peut donner, c'est que mon fils, mon grand, donc Arthur, fait beaucoup de piscine, puisqu'il est à un certain niveau en piscine, il est pas mauvais, je crois. Et donc, je passe beaucoup de temps à l'entraînement avec lui, ou avec Alex à l'entraînement d'athlétisme. Et donc, j'ai beaucoup de temps où je les regarde à leur entraînement, je regarde ce qu'ils font, mais ça laisse quand même mon esprit divaguer, mon esprit partir. Et donc, j'étais parti dans ma tête au départ sur « je vais faire une séquence de 5 newsletters pour démarrer avec Notion ». Et puis j'ai dit oui, mais 5, non, ça marche pas parce que j'avais les sujets. Donc j'ai fait 7. Et puis j'ai fait oui, mais j'ai pas. Et j'ai fini par écrire un livre de 250 pages au lieu de faire 5 newsletters. Ce qui marque un petit peu aussi le truc du fait que j'aime écrire. Et parce que j'aime écrire aussi, il y a toute une partie du boulot qui devient beaucoup plus simple là-dedans. C'est que faire un livre, pour moi, c'est évident. J'avais fait un roman qui a jamais été publié, mais que je me suis auto-édité pour moi tout seul dans mon coin. Qui faisait aussi 450 pages, donc j'ai toujours aimé écrire. Ce qui est comique d'ailleurs, c'est que mon grand, il adore écrire. Il écrit son propre livre d'agent secret et tout le truc là. Arthur, il écrit tout ça, puis il est en train de le retaper à l'ordinateur maintenant et tout, donc voilà.
Super. On va revenir justement un petit peu sur toutes tes activités liées au no-code. J'avais juste une dernière question par rapport à ton parcours. Comment tu t'es formé à tous ces... Déjà, peut-être, c'est quoi les études que tu as fait et comment tu t'es formé, justement, tu parlais de PHP, de Joomla, de tous ces services. D'ailleurs, je remarque au passage que déjà à l'époque, tu faisais de l'outillage interne et puis tous ces sujets, finalement, sur lesquels tu es aussi devenu spécialiste sur le no-code et qui, nous aussi, sont les sujets qui nous intéressent, DOPS, etc. Donc, voilà, mais du coup, ça vient de bien plus loin, quoi.
Oui, et la formation, du YouTube intégralement, quasiment. J'ai jamais suivi une formation en ligne... parce que j'ai toujours essayé de répondre à mes propres questions, puis de me débrouiller seul. Puis on avait quand même déjà à ce moment-là des outils qui n'étaient pas trop dégueux en termes de... Allez, pour détailler un petit peu le code, pour t'aider un petit peu à trouver quel était le lien entre les différentes possibilités. Et donc oui, j'ai dépatouillé tout ça moi-même. Je crois aussi que c'est ce qui permet à la fin de mieux pouvoir l'expliquer, c'est que tu finis pas. Par exemple, j'ai jamais regardé une des formations de contournement, pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que j'ai envie de le découvrir moi-même, j'ai envie de le faire moi-même. Et puis après, en plus, si je dois l'expliquer moi-même, aller regarder les formations des autres, c'est parfois un petit peu tendu quand même, je trouve. Mais voilà, donc c'est vraiment de l'auto-apprentissage.
C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est une réalisation que j'ai eue assez récemment, en fait, ce que tu viens de dire, quand on a travaillé sur la formation Make avec Lilian. Où du coup Lilian, qui est maintenant quand même considéré comme quelqu'un d'assez expert sur le sujet de Make, il a tout appris lui-même, quoi. Il a tout appris lui-même, et du coup il a une manière d'expliquer les choses que des fois, moi pour être tout à fait honnête, et je lui ai dit, hein, mais des fois je le trouvais pas très académique, tu vois, dans une certaine mesure, et parce que moi je suis développeur à l'origine, et puis j'ai... Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il explique mieux que moi, parce que, comme tu dis, il les a appris lui-même, et donc il sait, il se souvient que quand il les a appris, ce qui était compliqué à comprendre, etc. Tu vois, et il se souvient du déclic qu'il a eu, et donc il essaye de partager ça. Et c'est très intéressant, parce que c'est vrai que moi, j'ai plus une vision... Bah, moi, j'ai appris tout ce que je sais dans la technique, j'ai appris dans mes études, j'ai appris en me formant, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai une vision un peu plus de... Bah, d'abord, on apprend... Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, ça met un biais, parce que tu vas forcément essayer de réapprendre comme toi, tu as appris par la formation que tu as fait, on va dire, au lieu de, bah, si tu, comme tu dis, t'es dépatouillé, et bah, tu te souviens du déclic qui t'a fait comprendre, quoi, et donc t'essayes de transmettre ça. C'est des visions un peu différentes, mais je trouve ça assez chouette aussi ce que tu dis.
Ouais, et par exemple, un des trucs, moi, que j'ai gardé de mes études, en fait, avant de faire un STIT, j'ai fait 2 ans de droit, et dans le cours de droit, j'avais un prof d'histoire du droit, où tout fonctionnait, et tu vas voir que... Hein, où tout fonctionnait par 3. C'est-à-dire que le gars, il avait 3 parties, dans chaque partie, il y avait 3 sections, dans chaque... Et c'est quelque chose que moi, qui m'a, à l'époque en tout cas, qui m'a frappé, et encore maintenant, en fait, tout fonctionne par 3 dans Creacity. Ça sera très fort dans l'identité aussi qu'on est en train de mettre en place, c'est très fort dans les contenus que je crée, etc. Tout va par 3, et le fait de... Ça vient quand même de ma formation malgré tout, même si c'est pas la formation d'un site. Et par rapport à Lilian, je crois aussi qu'il a une force peut-être supplémentaire dans l'histoire, c'est il parle comme les gens, ce qui est ce ouais. qui peut être intéressant aussi, et il a aussi tellement de cas d'usage, donc il a fait tellement de boulot avant de commencer à faire de la formation que ça le rend forcément plus intéressant. Alors après, il a comme les autres, comme Shubham, comme toi, comme moi, il a son phrasé, il a sa manière d'y aller, sa manière d'expliquer le truc, et du moment qu'il trouve son public avec ça, voilà, moi je sais que j'ai trouvé ça intéressant que Lilian travaille avec toi quand j'ai entendu que ça se faisait, parce que justement, vous étiez, je pensais, sur 2 personnalités en même temps un peu semblables, dans le fait d'aider, de vouloir aider en tout cas, mais aussi quand même dans les approches qui pouvaient être assez différentes. Mmh. Et donc, je dis pas que c'est la terre et le feu, ou le feu et l'eau, mais il y avait quand même quelque chose là qui faisait une vraie différence, et voilà, je trouvais ça intéressant de voir ce que ça allait donner. J'ai jamais osé regarder la formation Make, parce qu'encore une fois, comme tu te dis, si je commence à regarder, ben ouais, il risque d'y avoir des trucs. Ouais, je préfère ne pas, bah, mais je trouve ça intéressant.
Pour le coup, en plus, tu risques de pas y apprendre grand chose, parce que c'est quand même un outil aussi que tu maîtrises bien. Mais oui,
c'est encore. Tu apprends toujours forcément une autre manière de dire, une autre manière de faire. Des gens qui font du Notion, il y en a des dizaines. Et tu vois, même chez les anglophones, les différents styles de personnes, tu finis toujours quand même par récupérer quelque chose quelque part.
Bien sûr, ouais. Non, je voulais dire plus sur
le contenu,
fonctionnalités ouais. en tant que tel, le contenu, quoi. Mais ouais, non, c'est hyper intéressant. Bon, on va reparler peut-être un petit peu plus de ces questions de formation. Mais du coup, pour passer un petit peu, pour comprendre un peu plus ton activité actuellement, parce que donc il y a cette partie formation sur laquelle on va revenir, parce que peut-être c'est là aussi on a plus de choses à se dire. Mais moi, j'étais curieux de savoir aussi un petit peu ce que tu faisais en termes d'accompagnement et de prestations. Est-ce que tu fais, par exemple, toujours accompagner, je sais pas, des sociétés pour mettre en place leur espace Notion, ou vraiment en mode presta, ou je sais pas. Enfin.
Oui, j'en fais encore. Alors, le problème, c'est que tu t'en doutes, mais il faut quand même balancer tout le peu de temps que j'ai. Parce que c'est vraiment prof, ça prend finalement du temps être prof malgré tout, aussi incroyable que ça puisse paraître et malgré ce que les gens peuvent penser. Et entre
les deux parents sont profs, alors je connais bien tous ces clichés.
Je me souviens de la discussion. Et donc le fait que je sois prof, que j'ai 2 enfants qui font beaucoup de sport, etc. Ça m'impose beaucoup d'organisation, mais je fais encore de la presta, surtout sur des projets. Très différent. Mais j'accompagne les gens pas que dans Notion, en fait. J'ai fait du Notion avec des gens, c'est clair. J'en fais encore de temps en temps, c'est vrai. Mais de l'Airtable, beaucoup. Ici, j'ai encore un gros projet Airtable avec un comptable. Du ClickUp aussi, que je trouve intéressant dans une autre approche. Et puis du Coda aussi avec une personne. Okay. Parce que Coda, c'est vraiment un truc incroyable. Je sais que Xavier Agapé, lui, il est assez fan de Coda, et a raison d'ailleurs. C'est un truc qui nous parle peut-être plus à nous qui avons fait un peu de code que ce que Notion peut proposer. Mais Coda, c'est très, très fort. Ça permet de faire des trucs vraiment indescriptibles. D'ailleurs, dans mon école l'année prochaine, c'est ce qu'on va utiliser pour gérer un petit peu la base de connaissances de l'école. Parce qu'on n'était pas à l'aise avec Teams. je crois que Notion n'aurait pas répondu complètement à ce qu'on voulait faire ou à ce que mes collègues voulaient faire en tout cas. Et donc Coda, c'était le middle ground, le truc un peu entre tous, celui qui permettait d'aller plus loin et de faire le plus pour l'école en tout cas.
J'ai envie de profiter justement un petit peu que tu parles de Coda pour faire une petite aparté, parce que en fait c'est un sujet que j'ai jamais vraiment abordé dans le podcast. Enfin, c'est un outil en tout cas que j'ai jamais abordé parce que j'ai jamais trouvé d'expert. Alors il commence à y en avoir, mais tu vois, jamais en France il y a personne qui est vraiment identifié que sur Coda, tu vois. Mmh. Et puis en plus maintenant je fais moins des épisodes juste autour d'un outil, etc. J'aime mieux, tu vois, parler avec des gens qui font pas mal de choses différentes et puis plus m'intéresser aux gens finalement que aux outils. Mais du coup, est-ce que je te propose un petit challenge, on va dire, c'est d'expliquer ce que c'est Coda, peut-être, et en quoi, toi, tu trouves ça intéressant. Je pense que ça rejoindra ce que pas mal de gens trouvent, mais parce que, tu vois, c'est un outil. Bah, je te laisse faire et après, je te ferai mon commentaire sur Coda.
Ouais, Coda, c'est Notion sur stéroïdes. C'est-à-dire que c'est l'évolution, la prochaine évolution de Notion. Notion a beaucoup de force et beaucoup de qualité, même par rapport à Coda. D'ailleurs, normalement, je ne sais pas trop quand cet épisode est publié exactement, mais j'ai 3 vidéos qui sortent l'une derrière l'autre sur Coda avec la comparaison avec Notion. Au niveau des boutons, au niveau des formules, et au niveau de toute la gestion des pages et des documents. Parce que Notion, pour moi, reste le plus fort dans son domaine et a le plus de potentiel. OK, donc là-dessus, je ne change pas trop d'avis. Je crois vraiment que Notion, à terme, dans un an, aura comblé pas mal de trous. Mais Coda a une force incroyable parce que c'est vraiment... Tu sens que c'est un truc qui a été fait par des développeurs. On avait discuté, toi et moi, à l'époque, d'Adalo qui était fait par des designers. Et Adalo, tu voyais le principe, enfin, l'attention portée au côté visuel de la chose. Et ben, chez Coda, ça pue le développeur, en fait. Et donc, tu sens vraiment que les mecs, ils ont créé des boutons actionnables. Et donc, derrière le bouton, tu peux aller taper une formule, tu peux aller taper une automatisation, tu peux aller faire des choses qui sont vraiment à un niveau que Notion ne peut pas avoir maintenant, puisque Notion, ils ont ingurgité Automate.io l'année dernière, et tu vois bien qu'ils sont dans le process de le digérer, là. Ils sont vraiment dans cette digestion du truc. Tu vois qu'il y a des choses qui apparaissent chez Notion au fur et à mesure. Par exemple, leur nouveau bouton état, là, leur nouveau statut état dans les propriétés de database de Notion, c'est clairement parce qu'ils préparent quelque chose derrière. Et même nous, ambassadeurs, on sait pas forcément quoi exactement, mais on sent bien que quelque chose arrive, et forcément, ça doit arriver. Et donc, Coda, c'est Notion, mais moins flexible. Par exemple, pas possible de transformer un titre en une page dans Coda. Tu pourras pas y arriver, ça ne se fait pas. Mais par contre, plus puissant sur l'histoire des boutons, sur l'histoire des formules. Avec les formules, j'ai fait des trucs grandioses dans Coda. Impossible à faire dans Notion. Comme tu crées des nouvelles lignes dans une database ici, etc., tu n'as quasiment plus besoin de make, par exemple. Tu as aussi un concept important chez eux qui est le pack. Et les packs, c'est quand tu récupères des fonctionnalités d'autres programmes, d'autres applications. Et donc, tu as un pack Google Calendar, tu as un pack Dropbox. Et tout ça, tu l'intègres directement dans ton Coda et tu peux jouer avec dans ton document.
Ouais. Et tu vois, ce truc de l'interface, moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment fondamentalement différent. Le fait vraiment d'avoir des boutons, par exemple. Et donc, en fait, dans Coda, je trouve que tu peux construire des petites applications, quoi, vraiment, comme des gens le feraient avec Bubble, etc. Et en fait, pour autant, et du coup, je veux bien des cas d'usage, tu vois. J'arrive pas à trouver vraiment un cas d'usage où je me dis, je vais l'utiliser plutôt que Notion ou Airtable. Tu vois, en tout cas là dans mon activité de contournement. Et des fois je me dis, je pourrais le faire avec Coda, mais comme on utilise déjà les deux autres, tu vois, c'est un... Et pourtant je vois, tu vois, la puissance du truc, mais j'arrive pas à voir aussi beaucoup d'usages, peut-être qu'il y en a de plus en plus.
C'est magnifique, tu es dans un timing incroyable, je trouve ça fabuleux, merci. Non, les trois vidéos, ça parle de ça en fait. Je suis là pour l'instant, cette semaine, on est... Je suis tous les midis en live sur YouTube, Twitch et tout ce que tu veux pour créer en public, là, je voulais essayer ça. Je crée en public un template de création de contenu dans Notion. Mais ce template de création de contenu dans Notion, en fait, je l'ai fait dans Coda. C'est le template, c'est l'outil que moi j'utilise dans Coda depuis 2 mois. Ça fait 2 mois maintenant que j'utilise Coda pour créer le contenu de Creacity. Pourquoi? Parce que, en fait, les enchaînements font que dans le processus et dans le temps que j'ai, et là, on est à fond dans les ops, hein, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que je rationalise à crever. Qu'est-ce que je fais, par exemple? Je crée des titres d'abord. Et pour créer des titres, j'ai toute une procédure qui se met en place pour essayer de trouver des titres qui sont valables en fonction des outils, en fonction des problèmes et en fonction des performances que je veux atteindre. Puis après, de ces titres, je fais des campagnes. Les campagnes, c'est la base du truc. C'est une campagne, elle est publiée à telle date. Et la plupart du temps, la campagne, c'est une vidéo. Et en fait, tout s'enchaîne et les différents boutons vont me permettre, par exemple, de créer 3 tweets qui correspondent à cette campagne. Donc, dans la manière de construire le contenu maintenant, je commence par des tweets. Je commence par 3 tweets parce qu'en fait, en 3 phrases bien construites, bien gaulées, 280 caractères, bien serrées comme il faut avoir dit le début de temps. Il faut avoir dit à quoi sert cette vidéo. Et donc, ça sert à quoi ?
Comme un processus de création.
Ça sert de tweet, parce qu'un tweet, c'est un tweet, mais ça sert ensuite d'accroche pour la vidéo. Ça sert, puisque ça fait 3 tweets, ça fait à peu près moins d'une minute de parole. Tu peux l'utiliser comme TikTok, comme Reel et comme Short. Et puis derrière, ben, tout s'enchaîne et la force de Coda me permet de faire des copier-coller directement là, ici à côté. Je pourrais tout faire avec Notion et Make, hein, c'est pas la question. Mais juste ici, tout se met en place dans Notion, dans Coda, 100% sans problème, quoi, tu vois. Au moment où je coche une case, par exemple, ça veut dire que je suis vraiment prêt à lancer la production de la vidéo, il crée un répertoire dans Dropbox, ça passe par Make, mais il récupère le lien, il le met là, et puis il commence à créer toutes les tâches, et donc par exemple toute la création des 27 tâches, 3x3x3, je sais, ça va par 3, les 27 tâches qui sont liées à la production d'une vidéo, les 27 tâches, elles sont créées par Coda directement par l'action du bouton, c'est vraiment immense, mais ça appelle à un public qui est forcément un poil différent de Notion, qui a déjà un peu plus de background, un peu plus d'expérience, qui a déjà structuré tout le truc. Moi, la grande force de Notion, c'est que tu peux y structurer ce que tu veux. Plus encore que Airtable, dans laquelle tu peux difficilement créer du contenu. Notion, ça reste pour moi l'outil maître de la création de contenu, de la structuration du démarrage. Mais aussi, à un moment ou l'autre, Notion a forcément ses limites, comme tous les outils. Et donc, je crois qu'à un moment ou l'autre, tu sors de Notion quand tu as vraiment tout structuré, quand tu as vraiment tout mis en place, et tu vas réutiliser des outils externes. Et je vois bien des gens qui ont utilisé Tâches et Projets dans Notion, mais qui, à un moment ou l'autre, vont vers ClickUp, parce que, naturellement, ClickUp, c'est un outil de gestion de tâches et de projets, ce que n'est pas Notion. Mais dans ClickUp, par contre, ils ont essayé de mettre des docs, et ça reste plus faible que Notion. Donc, voilà, moi, Notion, c'est vraiment l'élément central. Quand tu commences et que tu as zéro structure et que tu ne sais pas où tu vas, je prends Notion parce que justement, c'est une page blanche et tu peux tout en faire, tout transformer, tout relier d'une manière assez souple. Mais dans ce que moi, je fais là maintenant en création de contenu, avec le fait en plus que j'essaie de travailler avec des gens et de ne plus être tout seul, parce que ça aussi, ça fait partie du processus de grandir, pour l'instant, Coda est mieux adapté. Mais ce que je fais dans Coda, j'arrive à le faire dans Notion, avec une petite couche de complexité en plus que je dois utiliser Make au milieu. Mais un jour, Notion va redevenir l'outil. Parce qu'un jour, Notion, ils vont mettre des boutons, c'est quasiment pas possible qu'ils s'en privent. Ils vont mettre des automatisations, c'est clair et net. Donc, ils sont juste là maintenant dans une période où moi, j'ai besoin d'avancer et je suis plus au niveau purement structuration. Je suis au niveau, il faut que ça produise vite, quoi.
Ouais. Hein, c'est intéressant ce que tu dis sur Notion, parce que moi, je me pose la question, tu vois. Moi, j'espère qu'ils vont mettre des boutons, etc., tu vois, clairement. Mais est-ce qu'ils vont le faire, tu vois ? Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que ça les ferait pas diverger, justement, de cette vision plus wiki, tu vois, qui est un peu l'héritage de Notion, finalement ? Enfin, je sais pas, tu vois, de la même manière, les automatisations, tu vois, par exemple, ils ont dit, quand ils ont, donc, Notion a racheté, il y a moins d'un an, Automate.io, qui était un concurrent de Zapier à l'époque, et en fait, ils ont apparemment, ce qu'ils ont dit, ce que j'ai lu dans le communiqué de presse qui était il n'y a pas très longtemps, c'est que ils ont absorbé l'équipe, ils ont arrêté le produit Automate.io, et les équipes travaillent sur les intégrations à d'autres outils, quoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire, comme le fait Airtable, par exemple, un outil d'automatisation à l'intérieur de Notion ? Je ne sais pas, j'espère, hein, pourquoi pas, tu vois, ça serait très intéressant. Mais je ne sais pas, j'ai du mal à voir la vision, tu vois, de ça.
Et ça, c'est fou, parce que même nous, comme ambassadeurs, on est relativement limité là-dessus aussi. Donc, on a forcément un peu plus facilement contact avec les équipes et tout, mais pas tellement que ça, au final, quoi, tu vois. Moi, j'ai déjà discuté une fois ou deux avec les développeurs de chez Notion, entre autres l'équipe qui a récupéré Automate.io, mais c'est dur effectivement de savoir où ils vont. Et moi, enfin, mon espoir reste de revenir dans Notion complètement pour tout, parce que j'ai encore toute une partie de ce que je fais qui est dans Notion, quoi. Et j'ai pas spécialement envie de tout repasser dans Coda, voilà. Bon, et puis le fait que j'ai passé mon système de production de contenu dans Coda, c'est aussi parce que, encore une fois, si je sais le faire, je peux après l'expliquer. Et donc le bon cas pratique, c'est d'y arriver, c'est de faire le processus jusqu'au bout. C'est pas juste de dire tiens, on va créer du contenu et puis je te fais un demi template qui sert à rien, et au final quand les gens l'essayent, ils finissent par avoir plus de problèmes que de solutions. Et donc ici, franchement, maintenant je sais que mon système il fonctionne. Je sais que là, la dernière vidéo qui est publiée sur la chaîne là, les 9 cercles du paradis dans Notion, elle a intégralement été faite dans Coda. La demoiselle qui s'occupe des réseaux sociaux a tout récupéré dans Coda. Les liens Canva, Dropbox, tout ça, tout est créé là-dedans. Voilà, je sais que ça fonctionne. Donc, je peux maintenant me dire, OK, je suis prêt à faire les vidéos qui vont avec, parce que je sais que ce que je vais proposer, c'est pas juste un truc, il se pourrait que ça fonctionne bien. Non, non. Je sais que dans un vrai environnement de production, on a vraiment sorti du contenu avec ça. Mais clairement, je préférerais travailler complètement dans Notion, et je suis, tous mes scripts, tous mes scénarios mecs sont là, donc quelque part je pourrais le faire, et c'est pas comme si j'étais limité par les thunes de me dire il faut que j'arrête de faire des scénarios dans Make parce que ça finit par coûter cher. Ça aussi, le modèle économique de Coda est complètement différent de celui de Notion. Dans Coda, tu payes pour la personne qui crée les docs, mais pour les invités, tu payes pas du tout. Dans Notion, dès que t'es à 5 invités, ça devient un peu prépayant, même si c'est pas cher, hein, mais voilà. Ouais, cette année, j'ai vraiment essayé tous les outils possibles et imaginables pour améliorer, pour rendre plus efficace ma création de contenu. Et si maintenant je suis dans Coda, c'est parce que j'ai pas trouvé dans Notion exactement ce que je voulais. Mais je préférerais faire tout dans Notion si tout était possible et si tout était fluide comme je le voulais. Un bête truc, par exemple, j'ai réussi à faire un truc dans Notion qui, à mon avis, n'était pas prévu par les équipes. J'ai réussi à faire une sorte de lien cliquable pour faire une sorte d'appel à un webhook. Parce que j'en avais marre de devoir attendre que mec passe 15 minutes à faire le truc. Et donc, j'ai trouvé une astuce détournée, mais c'est un hack, quoi, pur et clair, de création d'une forme de lien avec un webhook qui vient de mec. Et ensuite, je rajoute un argument derrière qui est l'ID de la page, et ça me permet de cliquer dessus et que ça déclenche le processus au moment où je clique sur ce lien. C'est dommage d'avoir un truc pareil à faire, ce serait si simple. C'est pas difficile de... Pourquoi est-ce que dans une formule Notion, tu peux pas cliquer sur le lien qui résulte de la formule ? Je veux dire, c'est pas une automatisation en tant que telle, mais ça simplifierait tellement la vie. Il y a comme ça plein de petits détails où tu te dis... Et tu vois aussi, et ça aussi c'est une faiblesse de Coda, c'est un peu plus lent Coda. Et Notion, ces derniers temps, ça s'est amélioré. Et je crois qu'ils n'ont pas envie de mettre tout ça dans la balance. Ils ont peur, à mon avis, des performances. Ils sont en train de tellement grossir chez Notion et d'ajouter tellement de fonctionnalités qu'à mon avis, ils ont aussi peur de devenir à nouveau trop lent. Et ça aussi, c'est...
Bien sûr. Et ils ont raison d'en avoir peur, parce que plus tu as des utilisateurs, plus tu risques aussi ton business. Tu vois, en décevant ce volume d'utilisateurs, si t'as, enfin, tu vois, ça peut avoir des gros impacts par rapport à ton chiffre d'affaires, etc. Si tu déçois des gens, et la vitesse, on le sait, sur Internet est extrêmement importante, les performances et tout. Enfin, on passe tous dans la communauté de NoCode notre temps un peu à parler de ça et d'un outil à l'autre et tout. Ce sujet revient tout le temps. Donc, ils ont raison, je pense. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que je trouve que des gros outils, enfin. Des outils no-code plus établis comme Webflow, etc., deviennent beaucoup plus lents à sortir des nouvelles fonctionnalités. C'est parce qu'ils ont besoin, ils ont raison, d'être beaucoup plus soucieux de toutes ces choses-là, alors que des outils qui sont jeunes, comme Glide au début, etc., ils sortaient des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines, et puis ils s'en foutaient un peu s'ils cassaient quelque chose ou pas. C'était pas grave, parce qu'ils n'avaient pas encore beaucoup d'utilisateurs, quoi. Il y a un peu ce truc. Et je pense que Notion, clairement, est devenu tellement énorme, à la fois en termes de fonctionnalités et d'audience, enfin, et de nombre d'utilisateurs, que forcément ça entrave un peu leur plus d'inertie, quoi.
Ouais, et ça, je crois que c'est un sujet. Et toi, tu dois avoir une vision assez particulière de la chose aussi. J'ai l'impression aussi que dans les 15 ans où j'ai fait du développement, il y a forcément eu des changements, il y a forcément eu des évolutions. PHP a évolué, est devenu plus rapide, on a eu l'air. Et en fait, les outils no-code, ils sont en train, à mon avis, de vivre la même chose. C'est-à-dire que ils permettaient de faire des trucs sympas au début, et puis maintenant ils veulent rajouter des fonctionnalités pour devenir les monstres qu'ils auraient jamais dû être. Et peut-être qu'à un moment ou l'autre, par exemple, prenons les interfaces de Airtable, par exemple. c'est un truc, c'est... je sais pas, ça a l'air un peu bâtard, ça a l'air un peu canard boiteux comme histoire. Mmh. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est pas mal, mais enfin, à quoi ça sert? Alors que Airtable est exceptionnel pour faire ce qu'Airtable sait faire. Mmh. Alors, est-ce qu'on veut vraiment aller plus loin? Est-ce que c'est nécessaire que ça aille plus loin? Et là, je crois que tout le monde essaye de se rapprocher de tout le monde. Et au final, est-ce qu'on va pas finir avec une bouillie du style Microsoft qui, chaque fois qu'ils essayent de lancer un truc ou de reprendre une idée, ils en font une sorte de bouillie parce qu'ils doivent s'intégrer dans un truc tellement énorme que ça en devient impossible.
Et... Bah, tu vois, c'est très intéressant parce que ta réflexion, là, c'est exactement ce qui a fait que je posais la question tout à l'heure de savoir est-ce que Notion, par exemple, va mettre des boutons dans la possibilité de mettre des boutons, tu vois. Parce que moi, quelque part, je pense qu'il ne devrait pas, tu vois. Je pense qu'il ne devrait pas... Forcément, tout le monde l'attend, tout le monde voudrait qu'il le fasse, tu vois. Mais il y a aussi un peu un truc de garder, je sais pas comment dire, un peu, tu vois, Notion, il y a cette notion un peu de minimalisme aussi, je trouve, de tu vois, on connaît tous l'histoire, ça a été un peu conçu au Japon et tout, donc il y a ce truc, c'est très, très propre, très, tout doit être simple, tu vois, t'as le command slash, s'il commence à y avoir 12 000 trucs dedans, s'il commence à y avoir trop de fonctionnalités, ça peut un peu, je pense, perdre son essence. Et à la base, je trouve que moi, Notion, c'est un outil, comme tu dis, extraordinaire de gestion de contenu, de prise de notes, c'est le wiki du futur, quoi. Enfin, et voilà, et je sais pas. Et tu vois, pour te dire, moi, ma vision, par contre, Airtable, je comprends que Airtable, c'est Noam, je le dis tout le temps, hein, qui m'a un peu ouvert les yeux là-dessus, tu vois, Airtable aille dans la direction de faire un écosystème. Peut-être, j'espère qu'ils le feront mieux que Microsoft et que ce que tu décrivais, tu vois. Mais par contre, Airtable, leur vision, je pense, hein, c'est que tu dois tout faire dans Airtable. Et moi, je trouve que, par exemple, ce qu'ils ont fait sur les automatisations dans Airtable, c'est absolument génial, quoi. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup et c'est que le début. Autant, alors les interfaces, je suis d'accord avec toi, c'est ni fait ni à faire. Moi, non, on s'en sert pas. On l'a à peine mis dans nos formations parce que je trouve que pour l'instant, ils l'ont fait, à mon avis, pour dire « vous inquiétez pas, on va le faire. Ne partez pas tous sur Stacker, etc. parce que on va le faire un jour ». Moi, c'est un peu ça ma vision, ouais. Mais c'est pour l'instant, c'est nul, hein, on est d'accord. Mais tu vois, même ce matin encore, là, on parle, ils ont un petit peu changé l'interface. Mmh. Ils ont mis plus en avant l'interface graphique, du coup, et ils ont un petit peu mis en avant les interfaces, les extensions, ils ont changé de nom. Ils se cherchent encore un peu, mais ça se voit qu'ils essayent de faire tout un écosystème. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation et c'est... Voilà.
Ouais, mais tu vois aussi on va peut-être aller trop technique dans l'histoire, mais ne fût-ce que les boutons et le script dans Airtable, que tu puisses pas avoir les mêmes fonctions des deux côtés quand tu fais une automatisation dans laquelle t'as un script et quand t'as un bouton et que tu mets un script et que t'as un script derrière, t'as des trucs là qui sont pas possibles des deux côtés. Enfin, même là, tu sens que ils ont été en rajoutés un peu partout et maintenant il va falloir nettoyer tout ça. Donc peut-être que tu as raison, Notion n'a pas intérêt à mettre des boutons, mais et que, par exemple, moi, mon problème à moi serait réglé avec des liens cliquables. Que la formule te sorte un lien, qu'avec une formule, oui, tu puisses créer un lien et que ce lien soit cliquable. Quelque part, je te dirais bien, ah, ok, ça irait, quoi. Je peux m'en sortir avec ça. Mais, ouais, les automatisations, tous les autres trucs. Ouais, il faut voir. Mais c'est vrai que ça doit rester simple, ça doit rester l'outil minimaliste. C'est effectivement correct. Ouais, il faut voir, faut voir.
Justement, pour rester un petit peu sur Notion, parce que tu as fait une vidéo qui m'a intrigué, j'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder, que tu as appelé les 9 cercles du paradis.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quoi?
J'étais parti sur les. J'étais en train de lire un bouquin sur les 9 cercles de l'enfer de Dante. Et donc, au plus tu t'enfonces, au plus tu vas dans le vice. Et ici, j'étais reparti dans l'autre sens, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller vers le paradis? Pas vers l'enfer, mais vers le paradis. Et donc, les 9 cercles du paradis, c'est en 3 morceaux qui sont découpés en 3 sections, parce que 3 et 3 et tout ce que tu veux. Et donc, c'est récolter, traiter et créer. Et donc, dans récolter, je montre 3 outils. Moi, j'utilise Readwise, j'utilise Save to Notion. Et pour le coup, là, je parle de Zapier dans cette partie-là pour récolter. Puis pour traiter, ben, dans Notion, je parle des relations, des agrégations et de ce qu'on peut faire avec Make pour en rajouter une couche. Et puis après, quand on veut créer, bah, je repars sur partager, sur former, et puis sur mon système de déficience à moi, PAC, qui me permet d'aider les gens à bien commencer. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui discutent avec moi au niveau Notion, leur problème, c'est pas Notion, c'est qu'ils n'ont pas de structure. c'est qu'ils ne savent pas par où commencer, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une base de démarrage. Et on en revient toujours au même concept. C'est qu'on me dit, oui, mais j'ai besoin d'une base de données des clients, j'ai besoin d'une base de données des prospects. Oui, mais non. Essayons d'abstraire un petit peu tout ça. Ça, c'est une des toutes grosses vidéos qu'on prépare pour septembre. C'est la vidéo d'introduction sur les bases de données. Je serais d'ailleurs ravi d'avoir ton avis sur cette vidéo-là parce que voilà, c'est le genre de domaine dans lequel toi et moi, je pense qu'on est à fond sur l'explication d'un concept très compliqué, mais de la manière la plus simple possible. Et donc, le fait d'abstraire tout ça, c'est ce qui permet aux gens de se débrouiller au début et de comprendre quelle est un peu la philosophie du produit. Et ici, dans Notion, dans Notion ou dans n'importe quoi d'ailleurs, j'ai pas qui me permet de segmenter tout ça et d'aider les gens à démarrer en disant « Ok, fais-moi une base de données des personnes. » Parce que ce soit ton voisin, que ce soit ton client, que ce soit ton ami, ça reste une personne. Que ce soit l'État, une entreprise, une association, ça reste une entité. Une entité, c'est quoi ? C'est un groupement de personnes morales. C'est une personne morale qui regroupe plusieurs personnes physiques. Et puis au-dessus de ça, je mets une galaxie. Et donc, tu vois, dans le niveau d'abstraction, une galaxie, ça peut être un regroupement de personnes qui utilisent le même outil, ou ça peut être des entités et des personnes, ça peut être un regroupement de tout ce qui est à gauche et à droite, mais dans une galaxie. Et quand tu cherches la galaxie Notion, eh ben, tu vas tomber sur Camille, tu vas tomber sur Audrey, tu vas tomber sur Contournement, mais tu vas aussi tomber sur les gens, sur une Red Gregory, par exemple, qui est dans le monde anglophone, qui est sublimissime dans sa façon d'expliquer les trucs. Donc voilà. Et ça, ben, cette manière-là de l'expliquer, de démarrer avec les gens et de leur dire, on va démarrer de la base et puis on va bien catégoriser les différents types de contenus que vous avez, ben, ça aide les gens. Et donc moi, mon niveau de paradis à moi dans Notion, c'est le template pack que j'utilise avec ceux que j'accompagne.
Ok. Ouais, justement, c'était une des questions que je m'étais notée aussi, ce système d'efficience. Est-ce que tu as envie d'expliquer ce que c'est l'efficience ?
Il y a la différence entre la productivité, l'efficacité et l'efficience. Donc, productif, c'est tu produis un maximum. Efficace, tu fais le plus vite possible, y compris sans penser aux conséquences négatives. Mais l'efficience, c'est un peu la combinaison des deux. C'est-à-dire que tu arrives quand même à faire quelque chose, mais tu arrives à le faire d'une manière raisonnablement éthique, morale, en ayant quand même réfléchi aux conséquences que ça pourrait avoir. Et donc, j'aime beaucoup quand on parle de productivité et d'efficacité, mais quelque part, moi, ce que j'essayerais d'atteindre, ce serait plus l'efficience, même si c'est un mot qui est moins connu. Et par exemple, c'est un processus dans lequel moi, je suis devenu... ça fait un an que je suis là-dessus. J'ai jamais rien vendu avant d'avoir 42 ans. Donc, même dans tous les moments où j'étais développeur, etc., ça fonctionnait que par le bouche à oreille. Et j'avais jamais vraiment besoin de discuter mes tarifs ou de commencer à trouver des clients parce que j'avais mon métier sur le côté et parce que finalement, bah, ça tournait bien comme ça. Mais ici, si je veux vendre des formations et si je veux faire une société, et encore une fois, le livre de Michael E. Gerber, Le mythe de l'entrepreneur révisité, si je veux avoir une société et si je veux donner du boulot à d'autres personnes et si je veux faire grandir quelque chose, et laisser une trace, eh bien, il faut quand même vendre. Bon. Et pour vendre, il y a eu des moments dans les 12 mois qui viennent de passer où j'ai cherché à être plus efficace qu'efficient. Et donc, parfois, et c'est des discussions qu'on a eues, toi et moi aussi, je crois, en bribes en tout cas, sur le fait d'avoir peut-être de temps en temps trop d'attention sur la vente, trop une forme de pression, de dire « allez, on y va » et de pousser un peu les gens vers ça. Là où maintenant, effectivement, je reviens encore là-dessus, l'efficience, ce serait plus, tu suis le chemin, et si tu suis le chemin, ça va venir. Si tu suis le chemin, si tu fais les bonnes étapes, si tu fais les choses correctement, si tu fais les choses de manière efficace, certes, mais en faisant attention à ce que tu fais et en ne mettant pas, comment dire, en mettant pas les côtés désagréables de ce que c'est de vendre dans l'équation, eh ben, je vais toujours vendre. La famille ne vit pas de ce que je vends sur Internet, mais je vais obtenir des choses comme ça. Et dans le reste, c'est la même chose. Dans la création de contenu, ce dont on a parlé tout à l'heure avec le fait de créer des tweets et puis des tweets, de créer l'accroche de la vidéo et puis de créer le script qui va avec, c'est aussi une forme d'efficience. C'est-à-dire que j'aime pas les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, ça a jamais été spécialement mon truc. J'aime bien Twitter parce que Twitter, ça va vite, ça m'amuse, mais Facebook, par exemple, ça m'intéresse pas un gramme. Mais si je veux quand même être efficace là-dedans, tant soit peu, sans faire des trucs, voilà, il faut que je sois efficient, plus qu'efficace. Et donc, j'essaie d'utiliser les ressources que j'ai de la manière la plus intéressante possible, sans mettre une pression de dingue, sans que ça devienne un truc qui me flingue la tête. Ça doit rester simple. Et donc, voilà, l'efficience pour moi, c'est ça.
Ouais, c'est ça, il y a cette notion d'être efficace en utilisant le moins de ressources possible, quoi.
Ouais,
comme
c'est
tu
ça.
Dis, un peu de. Et ces ressources, ça peut être aussi les ressources, la charge mentale qui est associée. Enfin, il y a à peu près c'est les ressources et les moyens qui sont mis en œuvre. Ça, c'est après, c'est chacun, ça dépend du contexte, mais il y a un peu cette idée-là, quoi. Et c'est très intéressant. Et donc, ce système PAC, donc ça consiste dans un template Notion, ce que tu disais.
C'est,
et
c'est
autour
un
une méthode.
Ouais, c'est ça. Mais le template, il est dans Notion, mais il peut être dans n'importe où, en fait. Là, c'est la méthodologie, ouais. C'est vraiment le chemin. Le pack, c'est le fait de segmenter le profil, les actions et les contenus, les créations, et d'avoir d'un côté dans le profil, plus la partie wiki, la partie de suivi, la partie stat, la partie vraiment où on est dans le suivi de la société ou de la personne en elle-même. Puis les actions, ça dit bien ce que ça veut dire. Dans les actions, il y a les apprentissages, il y a les projets, et puis il y a une partie plus, opération. Et puis dans la création en elle-même, on est parti sur le fait d'avoir des campagnes, on est fait sur le fait de vendre des produits et d'avoir des versions de produits différentes. Ça, c'est un truc qui m'a été apporté par une des personnes que je suivais, c'est que d'après lui, dans PAC, il manquait le versionning, c'est-à-dire que on a bien un produit, mais ce produit doit évoluer. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'évolution du produit existant par rapport aux produits qui vont exister ou qui n'existent plus d'ailleurs dans le versionning. Et donc tout ça est dans un grand ensemble, et ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire peut-être en septembre, octobre. C'est une sorte de build-in public où je vais reconstruire tout mon template, mais en version YouTube, en version live. Et peut-être que ce sera l'occasion pour moi de revenir sur NoCode France dans le Twitch du NoCode France, parce que malheureusement j'ai arrêté parce que à un moment ou l'autre j'ai eu un moment où je m'en sortais effectivement plus au milieu de tout ça. C'est ce qui a déclenché entre autres le fait de refondre le système, de changer le système de production. C'est que en mars, avril, j'étais complètement cuit.
Ouais, t'as fait une petite vidéo même là-dessus où tu t'expliquais un peu exploser en plein vol, comme tu disais, il me semble.
Ouais, exploser en plein vol et délaisser Notion, mais pas abandonner Notion, mais délaisser, parce qu'à un moment ou l'autre, c'était plus le truc que j'avais besoin pour être efficient. Et exploser en vol parce que, clairement, à un moment, j'avais sorti vraiment beaucoup de contenu ces derniers mois et beaucoup de formations. Puis à un moment ou l'autre, ça finit toujours par péter à un moment ou l'autre. Et puis surtout, je crois que c'est plus encore... c'est le fait que je me suis rendu compte que je faisais un peu n'importe quoi pour vendre qui m'a dérangé et qu'il a fallu se recentrer. Et là, par exemple, le fait que je sois en vacances scolaires me relaisse plus de temps pour rediscuter identité, pour refondre le truc, pour revenir aux fondamentaux. Et ça reste quand même la base. Je suis prof. Et je suis prof. Mmh. Je suis pas vendeur. Je suis pas... C'est très bien d'être vendeur, hein. Je veux dire, mon plus jeune, là, Alex, je crois qu'il pourra vendre des lunettes à un aveugle un jour. Il a ça en lui, c'est cool. Mais d'un autre côté, tu peux pas vendre n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Et donc, c'est des moments comme ça où il faut se recentrer, revenir vers, OK, c'est quoi le cœur du business? C'est quoi le cœur de ce que je fais? Parce que sinon, effectivement, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Et là, on est peut-être efficace, mais c'est pas bien pour le karma.
Ouais, mais tu vois, après, c'est intéressant parce que tu vois, c'est une fine ligne. C'est intéressant, c'est justement ce fait que tu as un job, un vrai job qui te permet de vivre, et puis tu as une passion à côté, mais dont tu fais des passions, on va dire des activités, où je trouve, j'ai l'impression en tout cas que tu trouves une certaine passion,
oui,
mais où
sûr.
Néanmoins tu souhaites les vivre, entre guillemets, ces passions aussi, comme un business, tu vois, c'est ce que tu dis.
Mais c'en est un.
Et donc, un business, il faut aussi un peu vendre, quoi, tu vois. Et c'est ça, parce que je te dis ça, parce que c'est un truc que moi, j'ai vécu, où j'ai fait des projets par le passé, où j'espérais en faire un business, mais j'étais tellement passionné, on était tellement passionné par ce qu'on faisait, qu'on voulait jamais vendre, et en fait, à un moment, tu vois, de toute façon, ça n'a pas marché. Et puis, en fait, après, plus tard, je me suis dit, en fait, c'est soit il faut choisir, soit on fait un loisir, Ça, c'est tout à fait acceptable. Et à ce moment-là, on se prend vraiment zéro pression de soi. Si on veut faire un business, il faut se mettre un petit peu quand même. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, j'ai besoin de me mettre un petit peu coup de pied au cul des fois pour se dire, bon, bah, ce qu'on fait aussi, il faut quand même que ça soit rentable, rationnel économiquement, etc., quoi.
Exactement. Et encore une fois, les enfants, enfin, il y a beaucoup de choses qui dépendent de mes enfants dans toutes ces histoires. Hein. Mais mes enfants à la maison, ils ont deux profs, Nathalie et moi. On a tous les deux aussi une association. On fait des stages pour les enfants pendant les vacances. C'est en Belgique, ça s'appelle Association sans but lucratif. Vous, c'est loi 1901-1911, j'oublie chaque fois, mais c'est une association. Donc, le but d'une association, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire fonctionner, de rendre un service à la population. Et puis après, ils ont moi qui ai une société. Et si je veux leur montrer aux gamins ce que c'est d'avoir une société, si un jour ils doivent choisir c'est quoi une société, s'ils veulent en faire une, s'ils veulent se lancer là-dedans, eh ben quelque part, il faut que je respecte aussi les règles. Et dans les règles d'une entreprise, ça doit gagner des sous. Et donc, sur le côté éthique de la chose, par contre, je dois faire mieux, je peux faire mieux, je veux faire mieux. Mais sur le côté, il faut que ça vende, oui. Même si, effectivement, j'ai mon salaire à côté, même si la famille ne vit pas de ça, parce qu'en plus, Nathalie travaille aussi, elle participe activement à tout ça, mais ça doit quand même rester une société. Et une société, c'est fait, comme dans le livre, encore une fois, hein, c'est fait pour donner du travail aux autres, et ça, c'est quelque chose sur lequel ça fait 6 mois que je recrute, je cherche, etc. Et il y a de plus en plus de personnes autour de moi maintenant pour créer le contenu et pour le produire et pour le promouvoir. Une des personnes les plus incroyables dans cette histoire, c'est Lucille, qui s'occupe des montages. Depuis qu'elle fait les montages, ben, les vidéos sont beaucoup moins ennuyantes qu'avant. Parce que bon, effectivement, moi, je suis un prof, et donc, et en plus, je scripte mes vidéos, donc il y a eu des moments où c'est peut-être moins vivant. Je crois que ça va mieux maintenant, ces derniers temps, je suis un peu plus dans le groove, et voilà, ça coule un peu mieux. Mais c'est vrai que Lucille rend les vidéos plus agréables. Et maintenant, il y a aussi des personnes autour de moi pour l'écriture, pour le design, pour le graphisme. Et on met beaucoup de choses en place pour septembre, octobre. Et voilà, c'est ça, une entreprise. Une entreprise, c'est si tu fais tout toi-même, t'as pas une entreprise, t'as juste un job. Et moi, je veux une entreprise. Et ça, c'est un truc que j'ai pas compris pendant des années. Et donc, ouais, au fur et à mesure, comme ça.
Ce genre de choses, c'est pas évident, hein.
Oui, et puis mettre des guidelines en place pour que tout le monde sache ben, on va où. Et encore une fois, l'histoire dans Coda, c'est que tout le monde sait où on va, tout le monde sait où aller choper l'information, tout le monde sait le flux de l'information et des tâches, etc. Donc, ouais, au fur et à mesure, ouais, c'est mieux. Et je me rends compte que même comme ça, je continue à vendre des formations et je continue à vendre de l'accompagnement, mais mieux. Je veux dire, de manière plus agréable, avec un meilleur karma pour moi aussi, je crois.
Ça, c'est très important. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore, c'est Power Apps. Parce que tu fais aussi du contenu et une formation, si je ne dis pas de bêtises, dessus.
Ouais.
J'ai fait un épisode dédié avec Elliot, qui est de Microsoft, donc on en a un peu parlé, mais moi, j'ai envie d'avoir un petit peu ta vision plus d'expert communautaire, j'allais dire, je sais pas, ça veut rien dire en plus, mais plus de mecs qui travaillent pas chez Microsoft, quoi, on va dire clairement. Et voilà un peu là-dessus, parce que c'est un outil, je trouve, dont on parle pas beaucoup. Bon, il y a pas mal de stigmates associés à Microsoft, mais voilà, pourquoi toi t'as envie d'aller là-dessus
Des stigmates en plus qui, même ici dans le cas de Power Apps, sont relativement injustifiés. Hein. Alors, la raison pour laquelle moi je me suis intéressé à Power Apps, c'est tout simplement parce que j'évolue beaucoup dans le monde scolaire. J'aide pas mal d'autres écoles, à part la mienne. Et donc, on a dans une école d'une certaine taille, on a à peu près les mêmes besoins qu'une entreprise. Je reviens sur mon histoire de prestation dont je parlais tantôt. Les gens qui surveillent dans les écoles à certaines heures, chez nous, par exemple, le mercredi après-midi, il y a congé à l'école. Donc, il y a des gens qui surveillent. Ce n'est pas des profs qui surveillent, c'est des gens qui font des prestations. Il faut qu'on tienne un compte de leurs prestations et qu'à un moment ou l'autre, on les paye, ces gens. Eh bien, les écoles qui sont beaucoup ici autour de moi, dans le monde Microsoft, parce que c'est gratuit au départ, parce que les licences académiques, en tout cas du premier niveau, sont gratuites, et qu'avec le confinement, il y a des écoles qui se sont jetées dedans parce qu'il n'y avait rien d'autre et ils ont dû inventer un truc comme ça en une fois, se sont retrouvés dans un environnement où derrière, quand on leur explique que quand même, il y a moyen de se simplifier la vie au lieu de faire des feuilles Excel, des trucs à la main qu'il faut recopier, des machins, des trucs, ils t'accueillent les bras ouverts et tu peux leur montrer des choses qui deviennent intéressantes. Et donc, cette histoire de prestation, par exemple, c'est clairement une des applications que je donne dans plusieurs écoles et ça permet à ces gens-là d'aller beaucoup plus vite. Alors, Power Apps, c'est quoi exactement? Ben, c'est un créateur d'applications. C'est un outil pour créer des applications, mais ça reste à l'intérieur même de l'environnement Microsoft. Et ça fait une grosse différence avec des outils comme DraftBit, WeWeb, Bubble, tout ce qu'on veut. C'est que Power Apps, tu crées une application, limite sans code ou avec peu de code, mais elle reste dans ton environnement Microsoft à toi, dans ce qu'ils appellent un tenant. Et donc, ceux qui sont dans ce tenant, ceux qui sont dans cette organisation, qui ont le même nom de domaine, une adresse mail liée à ça, peuvent avoir accès à l'application. Et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ici, le simple outil de reporting dont je parle, ma foi, on peut le créer en 10 minutes, parce que tu prends une liste SharePoint qui ressemble un tout petit peu à ce que tu pourrais avoir dans Airtable, donc c'est des lignes et des colonnes auxquelles tu donnes un type. Et puis, en haut de SharePoint, tu as carrément un petit bouton pour te dire « faire une Power Apps ». Et quand tu appuies là-dessus, en fait, tu te retrouves avec une application fonctionnelle. On te propose directement un écran d'accueil, un écran pour créer des données, un écran pour les voir. Donc, tu as un CRUD, donc CRUD, Create, Read, Update, Delete, créer, lire, mettre à jour et effacer. Tu as ces fonctionnalités-là directement dans ta Power Apps qui est créée automatiquement. Après, tu peux créer ta Power Apps à partir de rien, tu peux créer ta Power Apps de plein de manières différentes, mais Power Apps, c'est pas mal. Mais ça reste du monde Microsoft, ça reste parfois lourd, ça reste parfois un peu compliqué. Il y a des trucs où tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Et effectivement, ça vient du fait que c'est un mastodonte, ça vient du fait que derrière, il y a une machinerie énorme à faire tourner. Mais tu vois bien que la Power Platform, c'est l'essai de Microsoft pour rentrer dans un truc qui ressemble à du no-code. Power Automate, c'est notre mix, c'est notre Zapier. Ça permet de faire des automatisations. Power Apps permet de créer des applications. On a Power BI qui est surtout là pour faire du reporting. BI, c'est Business Intelligence. C'est pour faire du reporting et voir un petit peu où en sont les données de la société, etc. Et puis, ils ont deux trucs qui sont vraiment intéressants là, dans un futur proche. Ils ont Power Pages, qui serait un équivalent de site web. On dirait qu'on pourrait faire un webflow avec ça, on va dire, pour trouver des équivalences lointaines, à mon avis quand même, mais bon, admettons. Et Loop, qui serait leur Notion. Ce qui fait toujours peur avec Microsoft, c'est qu'ils ont toujours des bonnes idées et qu'après, c'est compliqué. Mais voilà, Teams, c'est un outil incroyable, mais personne n'a envie d'utiliser Teams, quoi. Mais pourtant, ça pourrait être un énorme outil. Mais personne n'a envie d'utiliser parce que c'est lourd, parce que ça n'a pas l'air intuitif, parce que c'est un peu austère.
Ouais, moi, Teams, tu vois, c'est un des outils qui m'a un peu réconcilié avec Microsoft. Enfin on va dire que ma réconciliation avec Microsoft, tu vois, date plus du quand même de tous les efforts qu'ils ont fait pour plus supporter l'open source, etc. Qui sont des vrais efforts. Hein. Je pense que beaucoup de gens pensent qu'ils étaient juste là pour s'acheter une conscience, mais moi, je crois pas, tu vois. Enfin,
non, ce qu'ils ont fait avec GitHub.
Aller très loin.
Ouais, ce qu'ils ont fait avec GitHub et ce qu'ils ont fait même avec Minecraft. Pour ceux que ça intéresse, Minecraft for Education, c'est un vrai programme pour ceux qui veulent aider les gamins à apprendre à coder. Il y a des trucs incroyables là-dedans. Donc, ouais, je crois qu'il y a une vraie conscience depuis que Nadella est là aussi. Il y a eu aussi un shift de vision.
Et tu vois, en termes d'outillage, c'est vrai que Teams, franchement, j'ai été un peu contraint de l'utiliser dans une mission il y a quelques années. Et franchement, j'ai trouvé ça très correct, très intéressant en fait même, comme outil de gestion de projet un peu transverse et avec à l'intérieur, évidemment, les fonctionnalités de communication, etc. qu'on connaît. Mais enfin, franchement, c'est, tu vois, et la notion de plateforme, je la trouve intéressante. Enfin, ouais. En fait, on va dire que surtout, tu vois ce que tu disais dans la Power Platform, qu'il y a un Zapier, il y a un App Builder, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'il y a, je crois que Microsoft, ils ont à peu près 1 milliard d'utilisateurs, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire potentiellement presque 1 milliard de personnes qui pourraient faire du no-code sans avoir quasiment un dépenser un centime, quoi. Enfin, la société paye, tu vois, mais les gens qui ont accès...
Dans le milieu scolaire, c'est vraiment gratuit. Dans le milieu scolaire, c'est vraiment gratuit. Le A1 est gratuit. Tu peux pas installer Word, Excel, etc., mais à la limite, t'en as pas besoin. Je veux dire, tu peux créer tous tes documents en ligne et tout. Donc vraiment, là aussi, on finit toujours par me dire, oui, mais c'est vraiment gratuit. Oui, 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 oui. C'est vraiment gratuit et tu peux faire beaucoup
de choses. Beaucoup de choses, ouais. Après, ça, je trouve ça très intéressant. Après, les gens ne le font pas et c'est dommage, mais...
En tout cas, au niveau académique, c'est possible. Au niveau entreprise, évidemment, il n'y a pas de solution complètement gratuite, mais au niveau académique, je ne vois pas une école qui a aucun avantage à essayer d'utiliser...
C'est pour ça que, tu vois, quand je parlais d'un milliard, c'est vraiment de leurs clients installés, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui, de toute façon, payent Microsoft pour utiliser Excel, etc. Et en fait, tu vois, quelque part, bah, ces gens-là, ils pourraient, dès aujourd'hui, dans toutes les PME qu'on connaît, etc., qui fonctionnent un peu comme à la préhistoire, pourraient déjà faire des automatisations, quoi. Tu vois, parce que en fait, ils ont potentiellement accès à Power Automate, par exemple. Et Power Automate, tu vois, c'est Xavier avait fait une démo pour la communauté. Je trouve que c'est un outil très correct, quoi. Franchement, je veux dire, c'est assez relativement simple d'utilisation. C'est un outil qui est ouvert, quand même, qui a des intégrations, pas que aux outils Microsoft. Et pour moi, c'est, tout ça, c'est des agréables surprises, quoi.
Même Teams est très ouvert en réalité. Tu peux intégrer vraiment beaucoup de choses avec Teams. Et moi, dans les outils prof que j'utilise, un truc par exemple que j'utilise beaucoup et que mes enfants, à moi, utilisent ici à la maison aussi, c'est Quizlet. Quizlet, c'est un outil flashcards. Mmh. Donc, ça aide à la mémorisation, ça aide à s'entraîner à mémoriser. Vraiment un outil incroyable. Mais voilà, c'est intégré complètement, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très, très fortes dans ce que Microsoft fait. Mais il y a toujours cette couche de peinture. C'est toujours un peu le bordel. Ça paraît toujours un peu compliqué, un peu austère. C'est bizarre, mais t'as pas envie d'y aller. Mais quand tu y es, finalement, tu te dis, c'est pas si mal.
Ouais, non, mais parce que je pense que... Après, c'est sûr, hein, je veux pas faire un portrait trop angélique. Comme tu dis, il y a plein de choses qui sont vraiment effectivement lourdes, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une partie un peu psychologique, tu vois. Mais moi, le premier, hein, c'est-à-dire, j'ai pas envie d'y aller juste parce que j'ai pas envie d'y aller, quoi. C'est même avant même d'avoir vu, quoi, finalement. J'avais un peu ce truc-là, quoi.
Ouais, je dirais quand même que ceux qui sont dans l'environnement Microsoft aujourd'hui, parce qu'ils y sont obligés, ils y sont forcés, parce que choix d'entreprise, ils pourraient être plus mal lotis que ça. Ça pourrait être vachement plus ennuyant que ça. Je veux dire, on revient 10 ans en arrière, ce serait autre chose quand même. Ce serait plus douloureux, je crois.
Bien sûr, ouais. Non, mais les choses évoluent et voyons ce qu'ils vont faire dans les 5-10 ans à venir, quoi. Non, mais écoute, c'était très intéressant. J'avais une question, alors bon, là je reprends un peu, du coup on arrive un petit peu sur la fin, mais je reprends un peu mes questions dans le désordre, des choses qu'on n'a pas abordées. J'avais une question, évidemment, c'était pourquoi tu fais tout par trois ? Parce que je me souviens que dès la première fois où on a parlé ensemble, il y a peut-être déjà 2 ans, tu faisais une série de 3 vidéos avec la communauté. Mais bon, ça, tu as répondu déjà tout à l'heure.
Ouais, et puis il y a une base neuroscience à ça. Hein. Donc il y a une vraie base, là c'est à nouveau le prof qui remet sa casquette. On dit que dans la mémoire rapide, dans la mémoire de travail, tu as 3, 5, 7 items grand max, selon les personnes. Et comme on fait des vidéos et comme on fait des explications avec des adultes qui ont autre chose en tête, qui ont plein de trucs qui sont parfois pires que des enfants, 3 items, c'est souvent bien pour... C'est souvent nécessaire, suffisant et à ne pas dépasser. Franchement, j'ai appris ça quand j'étais à l'université, mais derrière, après, en neurosciences, il y a pas mal de choses qui vont dire qu'effectivement, 3, c'est pas mal. 5, c'est bien aussi. 7, c'est limite le maximum, quoi. Au-delà de 7, les gens ne retiennent plus rien.
Ok, hein, c'est un bon moyen aussi de se mettre un cadre. Tu vois, je trouve que moi, ce que j'aime bien avec le côté un peu systématique, un peu de cette règle de se dire on fait un peu tout par trois, c'est que ça te met aussi un guide. Tu te poses moins de questions sur certains trucs. Ok, si je fais une série de vidéos, bah, série, on aura 3, quoi. 3 ou 6, ou enfin.
Et même dans l'autre sens, en fait, ça force aussi à se casser la tête. Mais le fait de se casser la tête fait justement que ton explication normalement est meilleure. Dans le sens où, parce que tu as dû te limiter, tu as trouvé des nouveaux moyens pour être quand même, pour pouvoir être clair quand même, malgré tout, en ayant limité le nombre de mots, etc. Ce qui, de mon point de vue, comme je suis quelqu'un qui parle trop, ça aide aussi. Tu vois, ça m'aide à me cadrer et à ne pas me laisser partir trop loin.
Ok. Ouais, ça, intéressant comme manière de fonctionner.
C'est un tout petit peu de branding aussi, pour être très clair.
Oui, non,
c'est aussi un truc où à un moment ou l'autre t'es reconnaissable. Ah ouais, c'est le mec qui va par trois là. C'est comme un mot que j'utilise souvent, un mot que j'utilise souvent quand je suis en formation et puis on finit par parce que par exemple je forme les apprenants d'Allegria à Make par exemple et je sais pas combien de fois je dis croustillant sur les journées. Alors, on va faire quelque chose d'un peu plus croustillant. Et à la fin, bah, finalement, c'est eux qui reviennent vers moi avec leur truc de recette où ils ont mis des trucs croustillants dedans, quoi. Donc voilà,
okay.
Ça fait partie un marrant. Peu du branding et des tics vocaux qu'on a et qui font qu'on est finalement reconnaissable.
Bien sûr, et ça, en tant que formateur, je trouve que c'est hyper important. Enfin, nous, c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, enfin, on en a déjà même parlé ensemble. Il y a plein de formations. Moi, je pense qu'il y a autant de formateurs qu'il y a d'étudiants, quoi, potentiellement. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde doit trouver le formateur qui nous convient bien et la manière de parler, et notamment même ces tics de langage, tout ça fait qu'on adhère ou pas, en fait, finalement. Alors, évidemment, après, il y a la pédagogie et tout, mais... Même juste la manière de parler, tu le disais tout à l'heure, même sur Lilian et tout. Je pense qu'il y a des gens qui adhèrent à fond et puis des gens aussi qui vont pas du tout adhérer, quoi. Enfin,
ouais, on sait bien, par exemple. Dans le monde de Notion, on sait très bien que Shubham, par exemple, il a sa place, il a une place très importante dans l'histoire et il a sa manière d'expliquer. Mais combien de fois les gens me disent, on a regardé la vidéo de Shubham et puis on a regardé la tienne. Et au final, on a eu deux renseignements parfois semblables. Mais pas les mêmes, de manière présentées de manière différente, présentées, voilà. Et donc, oui, effectivement, mais ça, il y a le fait qu'on est forcément concurrents tous les uns un peu par rapport aux autres, par la force des choses, par le fait que c'est effectivement, on est effectivement des entreprises. Mais tant qu'à avoir de la concurrence, je préfère avoir de la concurrence avec toi et avec ta vision et avec la manière de faire les choses qu'avec d'autres formateurs qui pourraient être vachement plus agressifs ou qui pourraient avoir des attitudes ou des techniques commerciales beaucoup plus désagréables. On a de la chance de pas avoir vraiment ça dans le monde no code. Moi, tous les gens à qui je parle, c'est des gens corrects. Ouais.
J'espère que ça restera, hein, mais des fois, je suis un peu pessimiste. Mais oui, tu as raison de le souligner.
Ouais, mais par exemple, en France aussi, pourquoi est-ce qu'on a plus en France, ça, je remarque avec les ambassadeurs de Notion, on a plus de femmes aussi dans le monde francophone, j'ai l'impression. Par exemple... dans le monde germanophone, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment aucune femme dans tous ces trucs-là. Et ici, en France, on a la chance, dans tous les outils de no-code, d'avoir aussi des femmes spécialistes. Dans Notion, on a
Camille, spécifiquement on a Audrey, dans Notion, etc. Hein.
Oh, écoute, dans Airtable, là, j'ai vu avec Julien Mottet, là, il a fait une série de vidéos avec une demoiselle là, qui s'en sortait bien. Là, maintenant, son nom m'échappe, mais voilà.
Élise
Oui, ça doit être ça, ouais. Oui. Puis, même dans l'association, il y a quand même pas mal de demoiselles. Là. Il y a Tantage de Trucs qui est chouette. Hein,
Carole a montré quand même qu'il y avait une disproportion. C'est-à-dire que dans la communauté Notion, on est sur une parité à peu près, d'après les statistiques en tout cas auxquelles on a accès, notamment dans la communauté Notion en français, on est sur du 50-50 quasiment, alors que dans la communauté NoCode France plus générale, certes, il y a des femmes, heureusement, mais pas dans des proportions de parité, quoi.
Mais je crois que dans...
Et on doit travailler là-dessus.
Et toi, tu sais pas, dans le monde francophone, on n'est pas mieux loti que dans d'autres domaines, que dans d'autres cultures, disons ça comme ça. Enfin, oui.
J'aurais du mal à te dire,
mais...
Ouais, il faudrait voir. Je sais pas si... On a très peu de stats sur tout ça, malheureusement. J'ai envie de te dire oui, parce que, tu vois, un peu, parce que... J'ai l'impression que j'idéalise un petit peu aussi tout ce qui se passe en France ou en tout cas dans la francophonie, tu vois, dans tout cet écosystème qu'on a créé. Mais je saurais pas, tu vois. En fait, on est la seule communauté aussi fédérée et sur laquelle on peut avoir des choses visibles, en fait.
Parce que
aux États-Unis, tu vois, par exemple, tu sais, chaque outil un peu a ses experts, quoi. Et par exemple, sur Bubble, c'est une femme, Gabi, par exemple, qui est un des plus grands experts. Bon, tu vois, il y a Tara Reid qui est assez connue. Je sais pas trop, tu vois, on est un peu biaisé aussi forcément dans notre vision. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des progrès à faire, à mon avis, sur ces questions-là, quoi.
Alors moi, je travaille quasiment qu'avec des femmes tout le temps, puisque à l'école, c'est un milieu qui est plus féminin que masculin. Et dans les gens que je recrute ici pour travailler autour de moi dans Creacity, j'ai quasiment que des profils féminins. Pas par choix, mais parce que finalement, dans la vision, dans la manière de présenter les choses, dans la manière de faire les choses, je trouve plus de répondants du côté féminin que du côté masculin. Du côté masculin, on va t'envoyer une offre avec... je vais te faire 6 newsletters pour 1000 balles. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Tandis que du côté... J'ai l'impression, moi en tout cas, que du côté féminin, il y a une voilà, je préfère travailler avec des dames pour l'instant. Elles correspondent plus à ce que je fais et à la manière de voir le truc. Mais bon, moi je suis toujours maintenant, je suis à fond en recherche. Vous avez été longtemps aussi, vous, une compagnie de deux, là, une company of two. Et puis maintenant, ça bouge un petit peu.
Plus ou moins.
Ouais. Et moi, justement, c'est l'inverse. J'étais tout seul, donc maintenant, je veux absolument essayer de trouver des gens pour travailler autour de moi, pour plus être tout seul dans le truc. Et donc, ouais, c'est pour ça, par exemple, que cette semaine, j'arrête pas de dire aux gens, si vous avez une idée de vidéo, si vous voulez faire un truc, allez, venez, on va essayer de réfléchir, on va essayer de créer un truc ensemble, que ce soit pour vous ou pour Creacity, que vous vouliez être devant la caméra ou pas, etc. Donc, c'est vraiment maintenant... Maintenant, je suis à un moment où je me dis, OK, je peux passer maintenant. Je peux laisser les autres le faire. J'ai ma place. Donc maintenant, je peux former les autres à prendre cette place-là aussi, à devenir eux-mêmes formatistes, formateurs. Il y a des gens qui n'ont jamais été profs, et tu en es le meilleur exemple, mais où tu sens qu'ils sont faits pour ça. Et il y en a plein, des gens comme ça. Ouais. T'as dans toutes les boîtes, le gars, tu l'appelles parce que chaque fois que t'as un problème, t'appelles le même gars. Tu vois, hey, Mehdi, viens un peu parce que j'ai un truc qui fonctionne pas là à nouveau. Et puis le Mehdi, il vient, il te l'explique, il te le fait nickel chrome et t'as tout compris. Et tu sais, enfin voilà, c'est génial quoi. Et ouais, moi je rêve maintenant. Ça, c'est la prochaine étape de mon évolution à moi, de Creacity en tout cas. C'est d'avoir plus de gens qui créent du contenu, de les aider à créer du contenu et continuer. La formation Airtable qu'on veut faire, je sais même pas si elle verra un jour le jour. Elle a sa structure, tout est déjà cadenassé, mais il faut tourner, il faut faire le contenu en lui-même. Est-ce que c'est encore vraiment ce vers quoi je veux aller ou pas? Ou est-ce que vraiment je me dirige vers ceux qui veulent créer du contenu en plus? Tout ça, c'est un peu le futur de 2023. Qu'est-ce que 2023 va être pour moi? Ça risque d'être quand même très fort, encore plus tourné vers les autres et peut-être un peu moins auto-centré que 2022. J'espère en tout cas.
Écoute, c'est hyper intéressant et on sera là pour le voir. T'as anticipé complètement mes dernières questions, donc c'est parfait. Non, mais c'est nickel. J'ai une petite dernière question en forme de conclusion peut-être. Est-ce que t'as envie de partager peut-être, je sais pas, un peu tu nous as pas mal parlé de la manière dont tu travaillais, etc., de ces contraintes de temps, tu vois, que tu as. Est-ce que tu as quelques conseils, peut-être, de productivité, les choses un peu les plus... tu as partagé pas mal de choses, mais tu vois, pour les gens qui nous écoutent, des choses actionnables.
Pour moi, le principal truc sur lequel je reviens, c'est que tout le monde est capable de créer quelque chose si on structure. Si tu te retrouves devant une page complètement blanche... La plupart du temps, effectivement, tu vas pas t'y mettre. Tu vas trouver n'importe quel moyen de procrastiner et de faire autre chose parce que c'est impressionnant, la page blanche. Mais si tu veux créer quelque chose, que ce soit une activité, une formation, un article, tout ce que tu as envie, commence par mettre un minimum de structure en place. OK, je veux parler de quoi? Je veux faire quoi? Et c'est là que je reviens avec PAC ou avec le système par 3, avec le concept d'efficience. Dans ce que j'ai montré tout à l'heure, par exemple, dans le live que j'ai fait tout à l'heure sur Creacity, c'est... Comment je crée un script de vidéo. Et au final, c'est pas comme si c'était follement inventif. En réalité, c'est d'abord et avant tout une histoire de structure. Et seulement à la fin, il faut essayer de mettre une petite phrase par-ci, par-là. Tu te laisses porter par le texte et tu finis par faire une feinte ou par dire un truc un peu comique dans l'histoire. Mais n'importe qui est capable de mettre des idées sur un papier. Et puis, n'importe qui est capable même de les mettre dans le bon ordre et de structurer un peu le truc, de barrer certaines choses. Et donc, j'en reviens toujours à la même chose. On est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense si on structure ou si on est un petit peu accompagné. Et là, je reviens à mon truc de prof. Ça fait 20 ans que j'enseigne maintenant. Ça fait 20 ans que j'ai des élèves de 10, 11, 12 ans qui ressemblent beaucoup aux adultes en réalité. Dans le sens où ils sont eux-mêmes dans une phase de construction, comme beaucoup d'adultes qui sont en train d'essayer de trouver un nouveau chemin, ils sont en construction d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont avant tout besoin d'avoir confiance. Et ceux qui n'ont pas confiance, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire ou par où démarrer. Et donc, là où moi j'ai quelque chose à apporter dans cet ensemble-là, c'est la structure. C'est de dire, OK, reste cool, ça va aller. On va faire les trucs étape par étape et tu vas t'en sortir, tu vas trouver le chemin, un jour tu vas le trouver. Parce que si tu respectes un peu les grandes règles, si tu essayes de faire les choses dans l'ordre, le chemin est plus important que la destination. Le chemin est plus important que le résultat. Tout le monde cherche à gagner la Coupe du Monde au foot, mais il n'y a qu'une seule équipe qui va gagner. Par contre, dans le chemin qui t'amène jusque-là, tu peux faire quelque chose de grand quand même. Moi, c'est vraiment le plus important. Fais ton chemin. Et ton chemin, il est fait avec des balises, il est fait avec des règles, avec ton petit baluchon, qu'est-ce que tu mets dedans, etc. Qu'est-ce que tu as dedans. Mais il faut quand même commencer le chemin. Tu ne peux pas t'arrêter avant même d'avoir commencé.
Donc il faut se lancer. Il y a une citation comme ça dans le monde des startups, ou je ne sais plus, mais enfin, il faut aimer le process, finalement, de ce qu'on fait et pas le but à atteindre. But, bah voilà, on y arrivera, mais d'abord il faut être, je sais plus, amoureux du process ou un truc comme ça. Enfin, voilà, il faut aimer ce qu'on fait, quoi. Faut aimer ce qu'on fait, et ça peut amener loin, quoi.
Ouais, il y a un des gars là, c'est Ali Abdal, qui fait beaucoup de vidéos en anglais sur la productivité, etc., qui dit justement c'est le chemin et pas la destination. Mais ça vient d'autre part, hein. C'est un autre auteur qui a écrit ça un jour dans un livre, le chemin plutôt que la destination. Et
oui, c'est une citation de voyage, ouais, mais qui s'applique assez bien,
ouais.
Mais c'est ouais. Enfin, on transpose le chemin à l'activité qu'on fait pour atteindre un objectif, quoi.
Ouais, et quel objectif, hein ? Parce que, ouais, on a parfois tendance à se mettre des objectifs qui sont peut-être incroyables, impossibles. Alors, et on est forcément frustré parce que l'objectif, est-ce qu'on peut l'atteindre un jour ? L'objectif, c'est de suivre le chemin.
C'est un débat, hein. C'est une discussion qu'on a eue avec Stan à Lisbonne, mais si tu te mets un objectif trop atteignable, du coup, c'est... Si tu te mets un objectif atteignable, une fois que tu l'as atteint...
Qu'est-ce qui te reste ?
Ouais, mais bon. Moi, je pense que c'est tout à fait... Ça, c'est un truc, d'ailleurs, qu'il y a dans Company of One, dans le livre, justement, qui nous a un peu inspiré cette expression et tout, que je te conseille. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as lu, mais qui est hyper intéressant.
Okay.
C'est un super bouquin, je suis en train de le finir là, justement. Je l'avais jamais vraiment lu, à vrai dire, même si on parle souvent. Et il disait aussi, c'est très important de se fixer c'est plus une vision business, mais ça peut être vrai dans tout, c'est-à-dire aussi de se fixer un objectif, par exemple un chiffre d'affaires à atteindre, et une fois que tu l'as atteint, tu t'arrêtes de travailler, quoi. Tu t'arrêtes de travailler jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ça, comme ça, t'es pas obligé de cette course à la croissance qu'on essaye de nous vendre. Bon, je vais pas aller trop loin dans les discours de gauche, etc. Mais il y a un problème quand même avec cette croissance infinie qu'on nous vend et cette course à la croissance et tout. Et c'est vrai, ça s'applique aussi dans notre vie du quotidien. Et voilà, on peut se satisfaire aussi. Parce que tu vois, moi, ce truc de quand t'as une entreprise, tu te dis, bah, je dois toujours grandir, quoi. Je dois toujours un peu grandir, toujours recruter des nouvelles personnes. Et en fait, moi, c'est un truc dont j'ai pas envie. Et c'est ça, c'est pour ça que fondamentalement, même si on est deux associés, même si on a recruté une personne, etc., on est une company of one parce qu'on a ce truc de se dire, bah, il y a un moment, on peut s'arrêter, quoi. On veut arriver à un certain endroit, que ça tourne comme ça. Mais il n'y a pas besoin de toujours grossir et d'être toujours plus gros et d'être les plus gros, etc., quoi.
Je peux entendre ce que tu dis. De mon point de vue, l'histoire du chemin plutôt que de la destination, c'est justement de se dire, si tu fais les choses dans l'ordre, le reste viendra. Et donc, même en termes de croissance, etc., si tu fais les choses comme il faut, c'est pas que tu te sens obligé de grossir. C'est que ça vient avec le fait de faire le boulot proprement. Et là, peut-être que c'est une manière, encore une fois, entre efficace et efficient. Si tu fais les choses correctement, si tu fais les choses dans l'ordre, si effectivement tu recrutes parce que tu as des gens qui sont meilleurs que toi. Moi, mon objectif, j'ai déjà dit à ceux qui veulent travailler avec moi, l'objectif, c'est de devenir le plus mauvais de la pièce, à part pour un truc, à part pour la formation.
Ouais.
Le formateur, c'est moi, on est d'accord. Ou celui qui cadre le truc, c'est moi, parce que effectivement, ça reste, entre guillemets, ma vision, même si elle est toujours améliorée par les autres. Mais autour de moi, dans tout ce qu'il y a à faire autour, je peux trouver quelqu'un qui est meilleur que moi. Lucille, dont on a parlé pour les vidéos, elle est meilleure que moi pour le montage. C'est très bien. Et c'est respecter pour moi le process de dire je trouve quelqu'un qui est meilleur que moi. Parce que si elle fait ça mieux que moi, potentiellement, il y a plus de gens qui vont être intéressés à regarder. Si je trouve quelqu'un qui fait des designs plus propres que moi, que les gens ont plus envie de regarder que moi, ben c'est bien parce qu'en fait, ça nourrit la vision. Ça permet à plus de gens de se débrouiller. Ça reste dans les valeurs qui sont de mettre les gens au cœur du projet pour mieux les aider et surtout à la fin de leur permettre de voler de leurs propres ailes. Si je veux arriver à faire ça, il faut quand même être visible. Parce que sinon, s'il n'y a personne qui te voit, ça ne sert à rien non plus. Il y a cette, je sais pas, mm-hmm. c'est ma mère qui adorait ce film parce qu'il y a Kevin Costner dedans, Fields of Dreams, où en fait la phrase c'est « si tu le construis, ils viendront ». Mais c'est tout le monde sait que ce n'est pas vrai. C'est pas parce que je crée une formation que les gens vont venir la voir, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que je mets des vidéos sur YouTube que les gens vont venir forcément la voir. Donc il y a tout un contexte autour qui fait que si je veux accomplir la vision, il faut respecter le chemin. Et si je respecte le chemin, alors oui, ok, ils viendront automatiquement. Mais sans faire, sans aller trop loin, sans aller taper à crever dans les trucs de mailing qui font mal ou de pub et de pop-up dans tous les sens qui font que si tu cliques pas dans les deux minutes qui suivent, tu crèves et tu vas perdre l'accès à la promotion. Si on pouvait éviter ça, ce serait mieux quand même.
Ben, on est bien d'accord. Écoute, ça fait une très belle conclusion, un bon mot de la fin, je pense.
Ouais.
Merci beaucoup pour tout ça, pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te suivre en priorité ? Enfin, te suivre, évidemment, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube, etc. Où est-ce qu'on peut te contacter plutôt si les gens veulent...
Oh, ben, si vous êtes plutôt dans le monde Notion, je reste le plus actif possible, même si ces derniers temps c'est difficile, sur le Discord de Notion en français. Sinon, simplement Twitter, c'est le plus facile. De toute façon, à peu près partout, c'est Creacity. Sans le point au milieu, à part sur le site, évidemment. Mais sinon, à peu près partout, si tu tapes Creacity, tu dois pouvoir tomber sur moi. Je crois que j'ai trouvé un jour des Colombiens qui avaient un autre truc Creacity dans un coin. Mais je pense que les gens ont compris que j'avais pas un chapeau à grand bord et que donc c'était pas moi. Mais donc, à peu près partout, Creacity, ce sera très bien.
Ok, ça roule. Bah écoute, je mettrai les liens principaux et puis voilà. Et puis évidemment, tu es sur le Slack de NoCode France aussi où on pourra continuer la conversation.
Il faut jamais oublier
de te poser des questions.
Ouais, il faut jamais oublier de me mentionner parce que c'est vrai que comme j'essaye de gérer mon temps, si on mentionne pas, donc si on fait pas le petit at Creacity derrière, ça peut m'arriver de passer à côté d'un truc. Donc ça, c'est peut-être c'est même plus important que savoir où me contacter, c'est peut-être savoir comment me contacter. C'est que la mention, c'est sans doute le truc ultime pour espérer une réponse. Parce que parfois, c'est vrai que ça peut être compliqué de ce côté-là.
Je te mentionnerai quand je posterai l'épisode du coup la semaine prochaine.
C'est merveilleux.
Merci beaucoup à toi. À bientôt.
Merci à toi. À bientôt. C'est...
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, encore un épisode assez long. Je pense que vous l'avez compris, j'apprécie tout particulièrement ces échanges avec des membres de la communauté qui ont un avis un peu expert, avec qui on peut rentrer un petit peu dans ce no-code game. Voilà, donc j'étais très content d'avoir l'occasion d'échanger un peu plus longuement avec Vince, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bruxelles. On avait pas mal accroché autour d'une bière, et puis on s'est vu aussi à Paris. Mais voilà, et donc c'est toujours un peu différent aussi quand on enregistre. Voilà, on peut prendre un petit temps un petit peu plus dédié, se focus un petit peu plus sur le parcours. Ça aussi, vous l'avez compris si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, je suis toujours très curieux de savoir qu'est-ce qui a amené les gens aux outils no-code, finalement, qui sont des outils très récents, donc beaucoup de gens ont un passé avant. Ben voilà, comme Vince par exemple, qui a passé autour de la formation et la pédagogie, et puis aussi du monde du numérique. Donc voilà, tout ça influe forcément un peu sur les profils de chacun. Voilà, écoutez, c'est l'été, il fait très chaud, donc je vais économiser ma salive. J'espère que de votre côté il fait pas trop chaud au moment où vous écoutez ça. Et puis j'en profite pour vous annoncer tout simplement, là pour une fois, j'oublie un peu une fois sur deux de parler un peu de l'épisode suivant. Je trouve que j'ai enregistré tout à l'heure en fait cet épisode, voilà, il y a un peu des boucles dans le temps donc voilà, au moment où j'enregistre là la fin de l'épisode 94 avec Vince, j'ai déjà enregistré l'épisode 95 avec Jonathan Lefebvre, voilà, que vous connaissez peut-être, un expert autour de la productivité qui a travaillé chez Capitaine Train, qui a écrit un livre super intéressant sur le service client. Bref, quelqu'un que je pourchasse un petit peu depuis quelques temps. Voilà, on a échangé pas mal de fois, mais on a attendu un bon moment avant d'avoir le bon moment pour enregistrer cet épisode. Voilà, encore une fois, préparez-vous, ça sera une longue discussion. Voilà, et puis après, il y aura un dernier épisode, et puis on fera une petite pause. Donc, on sera à l'épisode 96, on fera une petite pause au mois d'août, et puis à la rentrée, j'ai déjà prévu, a priori, hein, les épisodes 97, 98 et 99, je pense. Voilà, qui nous emmèneront doucement sur cet épisode 100, qui sera un petit peu... je sais pas, hein, je l'ai déjà dit, hein, moi j'aimerais bien faire un épisode en public, alors je sais pas trop, ça risque de tomber à peu près aussi au moment où on va partir à Athènes avec Stan et puis avec d'autres membres de la communauté pour notre deuxième édition de la No Code House. Donc on va voir ce qu'on va faire. Et puis est-ce que après il y aura une petite pause, je sais pas trop, on va voir, on va réfléchir. Là il y a la fin de l'année, il y a peut-être un petit peu moins d'épisodes qui seront publiés, on essaiera de faire des choses quand même toujours quali. En fin d'année, il y aura un épisode solo aussi, je pense, encore de rétrospective. J'ai eu des très bons feedbacks sur cet épisode un petit peu expérimental que j'avais fait en fin d'année dernière. Et puis voilà, et puis surtout à la rentrée, on va lancer une nouvelle offre chez Contournement autour des Ops. Donc ça, ça va nous prendre pas mal de temps. Donc peut-être qu'il y aura aussi la nécessité de faire un petit peu moins de podcasts. On verra, tenez-vous au courant, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt parce qu'au moment où je vais arrêter et appuyer sur le bouton fin de l'enregistrement, je vais devoir aller faire un call avec des gens d'Airtable, je vous dirai, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Allez, abonnez-vous au podcast et à très bientôt, merci beaucoup.